Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui m'ont permis d'être parmi vous, les responsables des dépôts, IES et donc les autres organisateurs. Je vais parler de ce qu'appelle Donner l'islam des origines, qui pose de nombreux problèmes liés à ce passage de l'oralité à l'écrit, des problèmes liés aussi à la fiabilité et l'authenticité des récits, ainsi que la fidélité des transmissions. Grégor Scheler, dans son livre de biographie of Muhammad, donc, il a distingué deux grandes écoles, l'école hypercritique, donc avec Wansbrook, Cron, Cook, Donner, etc., et l'école, disons, traditionniste ou qu'il appelle sanguine, avec Sergent, Sezgin, Motsky et Scheler lui-même. Dans ce papier, je vais parler d'un récit, le récit de Selman el-Farisi dans la Sira. Et je vais surtout voir comment ce récit-là a été transmis, quel est le contenu de ce récit-là, et bien sûr, je vais soulever tous ces problèmes-là. D'abord, je vais parler de ce récit, où il y a la légende et bien sûr la réalité. Selman était l'un des personnages les plus énigmatiques de la première période de l'islam. Le premier texte à le citer, c'est Maghazi ibn Ishaq, qui lui réserva presque, d'après les textes publiés, 6 pages. Avec le temps, cette biographie n'a cessé de s'amplifier. Zahabi, lui, il a consacré à cette biographie une 50aine de pages. Et bien sûr, le récit des pérégrinations de Selman entre la Perse, la Syrie, l'Arabie, etc. Son premier contact avec le prophète a été reproduit selon 8 versions différentes. Bien sûr, chaque version est aussi différente et étrange que l'autre. Un récit attribue à Selman une longévité de 2 à 3 siècles, donc, alors qu'on sait que le prophète n'a vécu qu'une 60aine d'années. Et je vais me limiter donc au récit du 2e et 3e siècle, avec bien sûr la version originale, celle d'Ibn Ishaq. Donc Selman est le premier persan à rallier la cause de Mohammed. C'est un maoulin, si je peux utiliser ce terme pour cette période-là, parce que maoulin, c'est par rapport à une tribu et non pas le maoulin dans le sens du 2e, 3e siècle. Surtout, c'est un sahabi de la première heure qui pourrait bien symboliser le projet universaliste de la nouvelle Dawa qui était alors confinée à Médine. Ce symbolisme de l'universalisme, bien sûr, ce symbolisme ravivé au milieu du 2e siècle est à mettre en rapport avec le rôle grandissant joué par les persans dans la révolution abbasside. C'est un récit dont la source est Abdullah ibn Abbas, bien sûr, dont l'informateur n'est que Selman lui-même. La trame de la narration est constituée d'une série d'épisodes qu'on a beaucoup de difficultés à fixer dans le temps et même dans l'espace. La trame se présente comme suit. D'abord, les origines obscures de Selman, un jeune persan vivant avec son père dans le village de Jey, près d'Espahan, quitte donc le zoroastrisme pour se convertir au christianisme. Cette conversion est le début d'un long voyage en quête du savoir ou en quête de la foi. Départ vers Bilédchien, ou on ne sait pas où, rencontre ou avec un méchant évêque qui l'accompagne jusqu'à la fin de ses jours. Puis, il rencontre donc un bon évêque qui est désigné à sa place. Bien sûr, comment il est désigné, etc. Dans la, on ne sait pas comment. Il reste avec lui également jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Avant de mourir, il lui conseille d'aller encore développer sa spiritualité chez un célèbre évêque à Mosul. Puis la même chose qui se répète, Mosul, puis à Nasibin, puis c'est, donc j'arrive à l'épisode 7, un séjour à Nasibin, puis chapitre 8, même scénario, donc qui est avec un séjour difficile à quantifier à Amourie, qui se termine encore par la fin du prêtre. En contrepartie, celle-même toujours, il survit encore à ses hôtes. Il est encore à la recherche de la croyance idéale dans son monde. Bien sûr, avant de mourir, le prêtre d'Amourie lui confie, il ne reste plus sur terre, donc sur terre, lire le monde chrétien de l'époque, quelqu'un qui nous ressemble, à qui je puisse te recommander. Néanmoins, un prophète allait être envoyé au Haram, c'est-à-dire la Mecque. Il émigrera vers un lieu tourbeux, Sabha, entouré de deux ceintures de lave où poussent des palmiers, Yathrib. Ce prophète est reconnaissable d'après des signes irréfutables, le sceau de la prophétie, Khatm al-Nubuwa, entre ses épaules. Il accepte le cadeau, mais il refuse l'aumône. Donc commence un autre cycle, c'est le cycle d'errance pour Selman, accompagnant des commerçants de Minkelb, Rabil Kelb, dans un voyage vers le sud. Il est, bien sûr, ils l'ont dépouillé de ses biens, ils l'ont mis en esclavage. Puis j'arrive là au point 11, 12, il est vendu à un juif. Puis, entre-temps, apparition du prophète, bien sûr, à la Mecque. Puis survient sa hijra vers Médine. Là commencent les événements les plus fiables, quoique encore brouillés. Selman embrasse l'islam, probablement l'an 5, 627. Les musulmans l'ont aidé à s'affranchir de son esclavage. Et puis, donc, ça, donc on arrive à la fin de cette narration. Une deuxième version concernant les dires du prêtre de Amourie, donc là le point 9, il est donc fourni, donc cette version fournie bien sûr par un récit douteux dont la source est attribuée au calife Omayyad Omar ibn Abdelaziz, toujours quelqu'un de fiable, etc., qui le transmet à une personne dont l'intégrité n'est pas mise en cause. On ne sait pas qui est cette personne. Puis à Asim ibn Omar ibn Qutad, à Ibn Ishaq. Dans ce récit, le prêtre n'est pas le dernier maillon du cycle chrétien, mais l'avant-dernier. Il conseille à Selman de voir quelqu'un qui n'apparaît qu'une seule fois par an dans un endroit en Syrie ou peut-être en Palestine, d'après les récits. Où il répond aux requêtes des gens malades, etc. Et bien sûr, Selman attend cet homme-là, il lui demande de l'éclairer sur Al-Hanifiyya, la religion d'Abraham. L'homme lui recommanda d'aller la chercher en Arabie. Puis, donc, Selman était en train de raconter ça au prophète. Le prophète lui dit, si tu dis vrai, Selman, tu as rencontré Jésus, le fils de Marie, Isa ibn Marie. Donc là, c'est une autre version où on voit que donc une reconnaissance, même Jésus-Christ a reconnu la prophétie donc, de notre prophète. Cette longue chaîne d'événements difficiles, comme je l'ai dit, difficiles à situer dans le temps et dans l'espace, explique pourquoi certains auteurs tardifs osent dire que Selmayr avait vécu plus de 2 siècles et même 3 siècles. Mais au-delà de l'aspect légendaire de ce récit, nous croyons voir dans son contenu une volonté de prouver, au moment de la fixation de ce texte-là par écrit, c'est-à-dire milieu du deuxième et entre milieu du deuxième siècle jusqu'à la fin de ce siècle-là, une reconnaissance chrétienne du nouveau messager de Dieu, même avant son apparition, bien sûr, parce que l'histoire, donc la légende, Selmayr était donc en voyage avant même l'apparition de la Dawa al-Islamiyya. La deuxième version, bien sûr, raconté de la bouche même d'Omar ibn Abdelaziz, est encore plus explicite. C'est Jésus lui-même qui reconnaît Al-Hanifiyya, la religion d'Abraham. Que peut-on donc retenir de toute cette histoire? Tout d'abord, l'ampleur de la légende masque les réalités historiques. Mais ce que nous cherchons d'expliquer, c'est ce phénomène d'amplification en cette fin du IIe siècle. Selmayr était parmi tant d'autres un des compagnons du prophète Sahabi, dont la présence est attestée au moins en l'an 5 lors de la bataille de la tranchée, Ma'arakat al-Khandaq. C'était aussi un non-arabe, Maoula, dont les origines sont totalement obscures, vivant en esclavage dans une société où l'individu recevait de sa famille identité et statut social. Il n'a aucune chance d'avoir un nasab quelconque. Les sources postérieures lui attribueront le très flatteur nom de Selmayr al-Islam. Donc nasab, il n'a plus, on lui demande quel est ton nasab, il ne sait pas. On lui attribue, donc on lui dit que c'est Selmayr al-Islam. L'identifiant donc à tout l'héritage sacro-religieux de l'islam et non à un lignage quelconque. Ibn Sa'd lui attribuera la kunya de Abu Abdullah. En réalité, Selmayr, qui ne savait même pas prononcer correctement l'arabe, d'après un récit, avait pu mettre donc au service de la jeune communauté des musulmans encore fragile, sans savoir faire sa force physique. Et Waqidi rapporte que les gens ont rivalisé les uns avec les autres pour Selmayr. El Muhajirou avait dit Selmayr minna, l'Ansar ont répliqué Selmayr minna, et donc le prophète il dit Selmayr minna ahl al-bayt. Et ça, une autre appropriation de Selmayr de l'héritage, et donc la légende commence, donc là une jonction entre cette histoire de ce personnage-là avec la cause chiite ou abbasside. En fait, il n'y avait rien d'exceptionnel dans sa vie et sa carrière, sauf qu'il était le premier persan à embrasser l'islam. Az-Zuhri, le maître de Ibn Ishaq, ne cite pas Selmayr, même lors de la fameuse bataille de la tranchée, qu'il cite sous le nom Waqi'at al-Ahzab, bataille de la coalition. Donc comment se fait-il alors qu'en un quart de siècle plus tard, et probablement après la disparition d'Ibn Ishaq, les narrations se rapportant à ce personnage commencèrent à s'amplifier et prirent l'aspect légendaire qu'on connaît. Bien sûr, l'explication est à chercher dans les conditions qui ont assisté à la rédaction du texte lui-même. Et outre donc la crédibilité des transmetteurs, il ne faut pas négliger aussi l'effet des changements sociaux et politiques de la deuxième moitié du deuxième siècle et début du troisième. Donc, je vais voir comment donc, ce récit a été transmis en cette fin du IIe siècle. Dans la biographie d'Ibn Ishaq, Yaqut, quoique tardif, nous informe que celui-ci avait rédigé ses marazi pour Al-Mansour. Donc, ce n'était pas une narration uniquement orale, mais elle était presque une narration. Qu'il était à Al-Hira. Puis il a visité Al-Jazira, Koufa et Ray. Ceci explique pourquoi tous les rawis de ces récits ne comptent pas de Médinois, sont surtout originaires de Koufa et de Ray. La narration commence par Salman lui-même. Elle est recueillie de sa bouche par Ibn Abbas, puis elle est transmise à Mahmoud Ibn Labid, c'est un Médinois, il est donc décédé en 97, 704. Enfin, c'est un autre Médinois, Asim Ibn Omar Ibn Qutada, qui l'a transmis à Ibn Ishaq. La chaîne semble parfaite, mais chaque détail pourrait être inventé donc, à un moment ou à un autre. Surtout que le contenu du récit est logiquement inacceptable. Donc, il n'y avait aucune raison, du moins jusqu'en 120, d'inventer de telles informations déraisonnables. Alors, on va chercher le récit en aval, c'est-à-dire après Ibn Ishaq, où le texte est plus ou moins reproduit dans les sources écrites. J'ai un tableau là, avec une comparaison de. Al-Maghazi Ibn Ishaq, le texte publié par Hamidullah, la Sirah d'Ibn Hisham, du Caire, et Tabaqat Ibn Sa'd, puis Tahrir Tabari. Bien sûr, nous avons la même chose toujours, Ibn Ishaq, puis le lieu, c'est Koufa, Koufa, Koufa et Ray. La dernière, c'est Ray. Puis, bien sûr, les narrateurs Younes Ibn Boukayr, à Koufa, décédé en 199, El-Bakai Ziyad Ibn Abdullah, à Koufa aussi, décédé en 183, puis, troisième narrateur à Koufa aussi, Abdullah Ibn Idris, décédé en 192, et enfin, la version de Ray. Recueilli par Tabari et Salama ibn al-Fadl al-Abrash, c'était un grand qadi de Ray à l'époque. Il est décédé vers la même époque, 191. Là, nous avons donc presque, c'est la même région, l'est de l'État islamique, Koufa, puis Ray, encore vers l'est. C'est un milieu, plutôt chiite. C'est un milieu plutôt pro-abbasite. Et peut-être là, on peut trouver quelques détails qui nous aident à voir comment ces récits sont passés. Je vais commencer par Maghazi ibn Ishaq. Cette version-là, elle est publiée par Hamidullah sous forme de fragments, parfois incomplets. Le dernier transmetteur de cette version, Ahmed ibn Abd Jabbar al-Outaridi, il est décédé en 272. Donc, elle est postérieure à Ibn Hisham. Et non pas, mais elle n'est pas maquillée, c'est-à-dire c'est un texte qui est resté vierge, n'a pas été touché. Ibn Hisham, il devance Ibn Abd Jabbar al-Outardi, presque un siècle ou un peu moins, mais ce texte-là, il est plutôt tardif, mais il est resté intact. L'origine de cette compilation, c'est Younes ibn Boukayr. La chaîne des transmetteurs du récit de Salman dans cette version se présente comme suit. Ahmed nous a appris, il a dit, Younes nous a rapporté d'après Mohammed ibn Ishaq. Donc, il y a d'abord une différence d'âge entre Ahmed ibn Abd Jabbar et Younes ibn Boukayr. Mais il y a aussi une chaîne qui manque ici, c'est le père de c'est le père de Ahmed ibn Abd Jabbar. C'est-à-dire, Abd Jabbar al-Outari dit aussi, c'est un maillon de cette chaîne-là. Et là, nous avons un texte qui parle de cité dans Zahabi, mais il est crédible. Et il dit, Muhammad ibn Hussein ibn Humayd al-Rabiya tenait de son père. Qu'Abu Quraib s'est mis à lire les Maghazi une ou deux séances, mais certains des Ashab al-Hadith s'y opposèrent. Donc, Ashab al-Hadith, à cette époque-là aussi, donc, ils sont contre ces histoires-là qu'ils assimilent à des qissas. Donc, ils sont contre. Alors, donc, il a juré de ne plus. Il a interrompu son enseignement, il a juré de ne plus dispenser ce cours, cette leçon. Devant notre insistance, pour le dissuader, il nous conseilla d'aller voir Abd Jabbar al-Outari. Il assistait, dit-il, avec nous au sama' de Younes. Nous lui dîmes qu'il est mort. Donc, c'est le père de Ahmed. Donc, allez voir son fils. Donc, dit-il, il assistait avec nous. Donc, le fils qui était jeune, 10 ans peut-être, 9 ans, il assistait avec son père. Et il assistait avec nous. Donc, il nous indiqua sa maison où on le trouva jouer avec des pigeons. Ahmed. Il jouait sur le toit avec des pigeons. Il nous dit, depuis son sama, je ne l'ai jamais revu. Et ici, kelmet sama, c'est pas sama, c'est quelque chose d'écrit. Donc, le sama, il rédigeait, son père et lui, il rédigeait ces fragments de texte, et puis, Ahmed lui-même, donc la source pour nous de cette narration, il s'en moque de ce sama'a-là. Il l'a jeté à côté, et bien sûr, ils vont chercher ce sama'a-là. Nous dit-il, depuis son sama'a, je ne l'ai jamais revu, mais il est là, dans ses qamatres. Et je n'ai pas pu traduire le mot qamatre. Je l'ai traduit ici par cage. J'ai cherché d'Ozi tous les dictionnaires du monde, je n'ai pas trouvé, peut-être vous allez me fournir, peut-être quelqu'un pourrait me fournir la traduction exacte dans ces qamats. Et là, où il y a des livres, cherchez-le, c'est-à-dire SMA, c'est-à-dire le texte écrit. Je l'ai trouvé, donc le narrateur dit, je l'ai trouvé entaché de la fiente de pigeon. C'était son sama avec son père, tracé d'une vieille calligraphie, Khat-Atiq, et c'était vers 242. Donc, outre la preuve que c'est le père qui est le raoui direct de la leçon d'Ibn Boukay, ce texte pose le problème de la dichotomie orale-écrit. Le sama ici, et c'est une trace écrite et non un simple récit oral. Le narrateur parle même du modèle d'écriture, qui est encore plus ancien que celui en usage à cette époque. On est vers les années 242-856. Nous savons donc que la tradition de fixer des récits par écrit est plus ancienne, mais durant cette période d'effervescence, donc accompagnant la recomposition de l'héritage islamique au début du IIIe siècle, il nous semble qu'il s'est fait rescapé de la famille Al-Outari. Al-Outari dit, ont échappé à ce mouvement. Donc c'est pour ça, je dis que c'est un texte encore vierge, qui n'a pas été retouché et remaquillé par ceux de la fin du deuxième et troisième siècle. Ils sont donc à la base de la variante la plus originale des Maghazi d'Ibn Ishaq, celle qui est la moins touchée par les modifications et les embellissements. Je passe à la deuxième version, Sira d'Ibn Hisham. Donc, entre Ibn Hisham et Ibn Ishaq, il n'y a qu'un seul transmetteur. C'est Ziyad Ibn Abdullah al-Baka'i, décédé vers 183. La sire d'Ibn Hisham est la compilation la plus proche chronologiquement de la version originelle. Il nous semble qu'Ibn Hisham avait utilisé une riwaya déjà fixée par écrit par Al-Bakai, puisqu'il ne le cite qu'une seule fois au début du texte. Puis, à chaque récit, il utilise la formule « Qala ibn Ishaq », comme si ce dernier était son transmetteur direct. La sire d'Ibn Hisham est incontestablement la version écrite presque intégrale des enseignements d'Ibn Ishaq, mais elle n'était pas tout à fait fidèle à ses enseignements. Elle a été sujette à la censure, à l'embellissement. L'auteur lui-même reconnaît avoir agi volontairement pour éliminer tout ce qui lui paraît erroné ou faux. Bien sûr, quelques des fragments, des vers, etc. Et il dit, les choses dont il est vilipendé d'en parler, ou d'autres choses que les gens ne veulent même plus en entendre parler, le qissas, et aussi les récits qui n'ont pas été cautionnés par Al-Bakai. Donc, le texte a été remanié, totalement remanié par Ibn Hisham. Mais, toujours est-il que nous remarquons une grande similitude entre le récit de Selman, rapporté par la Sira, et celui des feuillets de l'Autari, ce qui prouve que les recensions établies par Ibn Bukayr et Al-Bakai, transmises par écrit, sont presque identiques, quoique les deux prirent naissance à Koufa. La première, celle d'Ibn Bukayr, fut recueillie par les Autari, père et fils, semble rester un bon moment, donc délaissée. Subissant les aléas d'un processus de rédaction, un processus irrégulier, une opposition de Ahl al-Sunna. On sait que, par exemple, on ne voulait pas donc entendre parler des maraises. Et nous avons des textes où les gens refusent d'écouter ça. Néanmoins, celle d'Al-Bakai a eu la chance, bien sûr, d'être recueillie presque dans sa totalité par Ibn Hisham. Dans les tabaqat de Ibn Sa'd, bien sûr, ce qui fait la gloire de Sir Ibn Hisham, c'est l'invention de l'intitulé Sir. C'est pour la première fois. Sir al-Nabawiyya. Et là, il y a un passage du profane au sacré, et là va faire oublier les déboires de l'auteur Ibn Ishaq et contribuera à la gloire du texte Sir depuis ce moment-là. Tabaqat Ibn Sa'd, en présentant la biographie de Selman, s'est appuyé lui aussi sur une recension dont l'origine géographique c'est Koufa, c'est riwayat à Abdullah Ibn Idris, recueilli par Yusuf Ibn al-Buhloul, qui était originaire d'Al-Anbar, mais habite à Koufa. Le récit commence par « Il a dit », je pense que c'est Al-Waqidi, il a dit, c'est « Yusuf ibn al-Buhloul nous a pris, akhbarana, Abdullah ibn Idris nous a rapporté, haddathana, il a dit, Mohamed ibn Ishaq nous a rapporté. » Nous remarquons d'abord que malgré le conservatisme attribué à Ibn Idris, ami de Malik ibn Anas et pro-médinois, sa version transmise est la même que celle d'Ibn Bukayr et d'Al-Bakai, ce qui prouve que tous les trois avaient utilisé les mêmes matériaux et avaient transmis fidèlement la leçon d'Ibn Ishaq. De ce fait, tout plaide pour situer l'invention du récit concernant Selman au niveau d'Ibn Ishaq. Sinon, ce serait au niveau d'Asim ibn Umar ibn Qutad. En fait, c'est difficile de prouver qui en est le responsable, Al-Mudallis. Mais nous pouvons avancer l'hypothèse que cette manipulation a eu lieu entre 120 et 151. Ibn Sa'd était en train d'écrire ses tabaqat vers la fin du 2e siècle, début du 3e. Il utilisait un système de fiches pour organiser son dictionnaire biographique. Parce qu'on va retrouver chez Ibn Sa'd des biographies qui sont parfois la même biographie qui se répète d'un lieu à un autre, parfois avec un peu de modification. Pour Selman, nous trouvons deux biographies. Une longue biographie numéro 359, donc le tome 4, et une courte, la notice numéro 3440, tome 7, et elle ne dépasse pas 24 lignes, mais elle est constituée de 7 récits différents, avec une pléthore de transmetteurs aussi différents les uns que les autres. Notre récit principal, celui d'Idris, le numéro 4, est exposé en 8 lignes et demie. Il est dénué de tout aspect légendaire. Il résume en quelques lignes la vie d'un sahabi. Je passe rapidement Tabari. Tabari, en tant que mohaddith doublé d'historien, n'a pas pris en compte des récits légendaires sur celle-même, mais il a recueilli tout ce qui le concernait lors de ce qu'il appela al-khabar an ghazwati al-khandaq. La transmission du khabar se présente comme suit. Ibn Humayd nous a rapporté, il a dit Salama, c'est Salama ibn al-Fadl al-Razi al-Abrash. Le Qadi de Ray, qui est l'origine de cette transmission. Aussi, c'est une transmission écrite. Et nous avons donc la preuve dans les textes, bien sûr, que c'est une transmission écrite. La rigueur qu'on attribue d'habitude à Tabari est un peu entachée par le contenu du récit qu'il ne met pas en cause. Parce qu'il a rapporté le récit des trois étincelles lors de Maalek al-Khandaq. Et voilà, Selman, il demande au prophète c'est quoi? Il lui dit, voilà, on va conquérir le Yémen, Byzance. Bien sûr, au deuxième et troisième siècle, c'est un fait accompli, là, la conquête. Et on ne peut pas mettre en cause ces événements-là. Il nous semble que la tradition recueillie par Tabari est la moins cohérente de toutes, malgré qu'elle soit transmise, elle aussi, sous sa forme écrite, parce que dans la transmission, il a cité une dizaine de transmetteurs dans un même texte. Il a dit, Selim nous a rapporté, il a dit, Mohamed ibn Ishaq nous a rapporté, deux, Yazid ibn Rouman, deux, Urwa ibn Zubayr, et de ceux que je n'ose accuser, de Ubayd ibn Ka'b ibn Malik, et de Zuhri, et de Asim ibn Omar ibn Qatada, et de Abdullah ibn Abi. On avait besoin d'une chaîne de trois personnes, mais là, pour la première fois, je vois Tabari très confus dans ce qu'il raconte. Pour terminer, donc la troisième partie, cette sire entre légende, histoire et hadith, je dirais qu'il y a eu des. Donc, nous avons un problème. Rawi ibn Abbas. Et donc la glorification de la personnalité d'Ibn Abbas, c'est le cousin du prophète. Il est aussi on attribue à certains, il disait, Ibn Masrouq disait que lorsque je vois Ibn Abbas, je dis il est le plus beau de tous. Lorsqu'il parle, je dis il est le plus sage. Lorsqu'il discute, je dis il est le plus savant. Donc, etc. Donc c'est aussi un peu plus ou moins une biographie plus ou moins légendaire que celle de Selman. Le sujet Selman est, bien sûr, on s'est approprié ce personnage, Mena Ahl al-Bayt. Et là, il y a une appropriation pour Ahl al-Bayt en général. Puis, dans le texte, il est situé dans la Sira Nabawiyya qu'on n'ose plus, donc on n'ose plus mettre en cause. Quel que soit le contenu dans ces récits. Et le texte, ce texte, il reconnaît, donc il y a une reconnaissance chrétienne de la prophétie de Mohammed. Et là, nous avons donc, vers 120-130, le débat. Yohann Dimashqi et tout ça, et là c'est une réponse à cette polémique donc entre chrétiens et musulmans à cette époque-là. On sait que Pour finir, juste pour finir, l'islam musulman, le chapitre c'est islam musulman. En principe, nous avons dans la sira islam Ali, islam Abi Bakr, islam Abi Dhar, islam Muhajirin, islam Khadija. En principe, dans le texte, islam musulman, ça fait partie de cette ce chapitre-là. Mais malheureusement, on trouve Islam musulman inséré dans Hadith ou Bahir al-Rahab, Hadith ou Khadija, Tazwij Khadija, parce que c'est Maïsara qui va raconter qu'il y a un moine qui avait dit telle ou telle chose, etc. Puis Qissatul Ahbar, et Islam musulman est inséré dans cette partie-là. C'est cette partie-là qui, donc, où on cherche à justifier ou à légitimer la prophétie. C'est une réponse à la polémique de cette époque-là. Et d'où ça pose ces problèmes-là. Et enfin, je dirais que, juste pour terminer, Khoury avait dit l'inauthenticité d'une partie de cet héritage ne devrait pas conduire à mettre en doute tout ce passé qui pèse lourd, très lourd, sur l'évolution postérieure de tous les genres littéraires dans la culture islamique. Et moi, je me permets de faire mienne cette position. Et merci pour votre attention.